Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. 7h43 sur RTL. Elisabeth Martichaud reçoit donc aujourd'hui le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard.
Bonjour Jean-Marc Huard.
Bonjour Elisabeth Martichaud.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le numéro 2 du ministère. Le bac et les filières vont être ripollinés du sol au plafond. On n'a pas fini de se poser des questions. On va faire de la pédagogie grâce à vous. Mais d'ailleurs, du coup, le baccalauréat, il va changer de nom lui aussi ?
Non, le baccalauréat, c'est le baccalauréat. Il est, tous les Français sont extrêmement attachés à ce baccalauréat.
Et au nom qui date de Napoléon, c'est très,
oui,
très,
oui,
ancien.
Oui, hein. c'est une institution française, hein, et l'objectif, c'est de renforcer, de remuscler cette institution française, de la pérenniser, parce que chacun d'entre nous sommes extrêmement attachés à ce diplôme.
Alors, le nom du bac ne change pas, je vous pose la question, parce que le nom de la terminale va peut-être changer. Classe de maturité a confirmé comme piste hier Jean-Michel Blanquer, mais ça pourrait être autre chose, ou c'est quand même ce qui se dessine le plus ?
Ce que dit Jean-Michel Blanquer, c'est que la classe actuellement de terminale, finalement, est mal nommée, parce que cette classe ne termine rien. À la limite, elle commence autre chose, et elle commence le passage vers l'enseignement supérieur et la réussite vers l'enseignement supérieur. Donc le ministre a dit hier que nous avions encore quelques jours et quelques semaines pour réfléchir au nom de cette classe que nous allons faire.
Bon, on verra, hein. C'est vrai que pour certains, il y a une sorte d'injonction de maturité par ce nom, mais on y reviendra. Peut-être qu'on en prendra l'habitude très vite.
C'est un nom dans un certain nombre de pays européens, hein, la classe de maturité.
Exactement.
En Belgique et en Italie.
Alors, ce bac New Look, Jean-Marc Huard, 4 épreuves écrites, dont le français en première, 2 épreuves à la fin des vacances de printemps, pour l'année terminale, on va garder le nom pour l'instant, et puis en juin, la philo pour tous, et ce grand oral, c'est une grande nouveauté. C'est moderne l'oral ? Une société moderne, c'est forcément une société de l'oral ?
Je pense que le grand oral est un progrès tout à fait considérable. Toutes les études internationales montrent que les Français ne sont pas du tout forts dans le cadre de ces compétences orales. C'est un vrai facteur d'inégalité sociale. En mettant un grand oral à la fin du lycée, nous mettons le système en quelque sorte en mesure, par la formation qui va se faire dès la classe de seconde, à ce que tous nos jeunes élèves puissent enfin avoir, dans ce cadre de compétences orales, les mêmes compétences que l'ensemble des élèves européens.
On aura le temps de rattraper, parce que c'est vrai, un fils de bonne famille, eh ben, il a plus de maîtrise de l'oral qu'un jeune des quartiers, souvent.
Le rôle de l'école de la République, c'est justement de former tous les élèves. Et si, au départ, il y a des inégalités liées aux origines sociales, hein, notamment sur cette compétence orale, c'est justement le rôle de l'école que de les corriger. Et c'est pour ça que nous mettons un grand oral à la fin de la classe de terminale.
Voilà, dès la seconde. Hein. Quels enseignants préparons au grand oral ?
Tous les enseignants, hein, sont amenés à préparer au grand oral. Le grand oral va être axé notamment sur les disciplines de spécialité que les élèves choisiront progressivement au cours de leur scolarité.
Et ce sont les enseignants de ces spécialités, on va en parler, qui prépareront à l'oral en même temps qu'ils apporteront les connaissances sur la spécialité.
Oui.
Ce sont les mêmes qui le feront, mais ils sont formés pour ça ?
La question de la formation des enseignants est un sujet tout à fait fondamental. Aujourd'hui, les enseignants préparent déjà, les profs de français existent à l'oral. Il y aura, dès la classe de seconde, à la rentrée 2018, un travail important sur l'oral. Nous allons réorienter ce que nous appelons l'accompagnement personnalisé vers la maîtrise de la langue écrite et orale dès la rentrée 2018 en classe de seconde. Dès la rentrée de septembre prochain.
Il y aura déjà plus que des sensibilisations, des cours d'oral dans le cadre des accompagnements, des enseignements d'accompagnement.
Il y aura, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, une approche effectivement extrêmement importante de l'oral. La classe de seconde bouge très peu finalement à la rentrée 2018, parce que nous sommes déjà très tard dans l'année scolaire. Néanmoins, nous allons mettre en place un test de positionnement à l'entrée, et à partir de ce test de positionnement, de l'aide personnalisée va être mise en place pour les élèves, à partir de ce qui existe déjà, l'accompagnement personnalisé, et orienté vers la maîtrise de la langue écrite et orale, parce que c'est absolument fondamental.
Mais un test
pour
de positionnement pour évaluer quoi ? Donc la capacité orale, mais pas seulement.
La capacité en maîtrise de la langue écrite et orale.
En maîtrise de la langue écrite et orale à la rentrée de septembre pour les nouveaux élèves de seconde, pour préparer finalement à ce nouvel enseignement.
Dans la perspective du grand oral.
Alors les 2 épreuves de printemps, classe terminale, concerneront les spécialités. Ce seront des matières choisies, donc il y en aura 3 en première, et ça se resserrera en terminale, il n'y en aura plus que 2. Autrement dit, ce que vous voulez, c'est que les élèves se spécialisent plus tôt.
Ce que nous voulons, c'est que les élèves aient une meilleure préparation pour l'enseignement supérieur. Et ce que nous voulons, c'est que cette meilleure préparation leur donne également une capacité de choix qu'ils construisent progressivement au cours de leur parcours. Dès la classe de seconde l'année prochaine également, des heures dédiées à la construction du projet, notamment d'orientation, vont être mises en place. Cela continuera en première et en terminale dans la perspective de l'enseignement supérieur. Cela va les amener à choisir trois disciplines de spécialité à raison de 4 heures par semaine en classe de première, puis 2 disciplines de spécialité. Nous avons les deux systèmes en parallèle finalement. On se renforce dans les enseignements d'un côté, on se spécialise, on approfondit les enseignements d'un côté et on construit son projet de l'autre.
Alors pour ceux qui essayent de reconstituer ce que seront les années lycée, on a compris qu'il y aura un tronc commun et Absolument. Il y aura ces spécialités. Alors ces spécialités, il y a certaines formulations qui sont nouvelles. Alors, il y a art, écologie, agronomie et territoire, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, etc. Il y en a 10, 11.
Absolument.
On pourra faire toutes les combinaisons qu'on souhaite ?
L'intérêt, c'est qu'effectivement,
on
les élèves...
On pourra choisir art et humanité scientifique ou art et sciences de l'ingénieur ?
L'intérêt, c'est que les élèves aient un panel de choix qui soit le plus large possible. Dans tous les établissements, il y aura une base de discipline, comme c'est le cas aujourd'hui, qui permettra aux élèves de choisir les combinaisons, les triplettes en classe de première et les doublettes en classe de terminale.
Attendez,
qui correspondront
est-ce que tous
à leur
les
choix.
Lycées proposeront toutes les spécialités ?
Nous estimons, non. Si vous voulez, nous estimons aujourd'hui qu'il y a environ une dizaine de doublettes qui sont absolument indispensables et présentes dans l'ensemble des établissements. Parce qu'elles correspondent, je peux vous donner maths, sciences économiques et sociales par exemple, ça c'est
dans tous les lycées.
Sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, littérature et langue vivante, sciences de la vie et de la terre et sciences physiques, mathématiques et sciences physiques, voilà. La liste, nous sommes en...
Il y aura un fond de sauce de 5 combinaisons dans tous les lycées, et
une
puis
dizaine.
Ensuite une dizaine. Donc, mais cela dit, au final, on n'aura pas donc le même choix dans tous les lycées.
Si, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous n'avez, par exemple, les options artistiques ne sont pas proposées de la même manière dans tous les établissements. La spécialité sciences de l'ingénieur, qui est absolument essentielle pour renforcer les compétences scientifiques de nos élèves, n'est pas aujourd'hui proposée dans tous les établissements. Il faut que le plus d'établissements possible proposent ces spécialités, et ça sera en effet le cas.
Parce que vous me voyez venir, j'imagine. Si on n'a pas le même choix en fonction de son lieu de résidence, par exemple, les bons lycées risquent de proposer les parcours les plus cohérents par rapport aux attentes des grandes écoles, et puis d'autres lycées seront plus audacieux, feront des combinaisons plus originales, mais la hiérarchie entre les bons et les mauvais lycées risque de se reconstituer malgré la disparition des filières.
Il faut absolument renforcer dans ce que vous appelez les autres lycées des approches et une offre de disciplines qui soient extrêmement riches. C'est absolument nécessaire. Nous devons avoir des établissements qui proposent, qui sont par exemple dans des zones urbaines plus sensibles, qui proposent une richesse et un choix beaucoup plus important aux élèves que dans d'autres types d'établissements.
Vous dites que ce Big Bang peut modifier la hiérarchie entre les bons et les mauvais établissements. C'est votre
but. Oui, pour la réussite
aussi.
De chacun des élèves.
Ouais. Alors, il y aura du contrôle continu qui comptera pour 40% de la note finale du bac, 10% sur les bulletins scolaires et 30% ce seront des partiels ou des bacs blancs, enfin qui sont plus blancs du coup, répartis sur la première et la terminale. Une des inquiétudes, c'est comment est harmonisée l'évaluation, puisque ces partiels, ce que je vais appeler les partiels, ce sera dans les lycées qu'ils se feront. Ce ne sera plus vraiment une épreuve nationale.
Alors, le baccalauréat conserve absolument son caractère national.
Comment ?
Il faut savoir que aujourd'hui, le contrôle continu, finalement, compte énormément dans la poursuite d'études. Le contrôle continu et les bulletins scolaires, c'est le seul critère qui est pris en compte dans IRAPB, aujourd'hui Parcoursup, pour l'affectation dans l'enseignement supérieur. Demain...
Il ne compte pas pour le bac, il compte pour la suite du bac.
Tout à fait. Demain, nous intégrerons les notes des épreuves de spécialité qui se passeront au retour des vacances de printemps dans Parcoursup. Et donc, ça aura un rôle important. Donc, le poids du contrôle continu sera minimisé. L'équité sera assurée. Comment ? Parce que nous disposerons d'une base nationale de sujets pour l'organisation l'organisation de ces épreuves communes, avec un barème spécifique. Et puis nous regarderons, à un niveau géographique qui peut être l'académie, les écarts éventuels, et je peux parier qu'il y en aura extrêmement peu, entre les établissements, pour faire si besoin en était, de la régulation.
Avec ce contrôle continu, Jean-Marc Huard, les lycées publics et privés contribuent pour la première fois à la certification du bac. C'est complètement nouveau.
Non, mais je crois qu'il faut faire confiance. Nouveau. Il faut faire confiance déjà aux enseignants. Hein, cette idée selon laquelle il y aurait des notations spécifiques d'établissement ne se passe pas. Moi, j'ai entièrement confiance dans les enseignants. Les enseignants notent en leur âme et conscience qu'ils soient de l'enseignement public ou de l'enseignement privé.
On n'a pas fini de parler de la réforme du bac. Jean-Marc Huard, j'ai deux questions qui sont très importantes aussi. C'est la grogne qui monte contre les fermetures des classes dans les zones rurales. Il y en a beaucoup, notamment l'opposition en a listé 45 fermetures pour 17 ouvertures en Eure-et-Loir, 34 fermetures pour 25 ouvertures dans Loir-et-Cher, etc. Combien de fermetures sont prévues aujourd'hui pour la rentrée de septembre dans les zones rurales ?
La ruralité et le maintien d'une offre scolaire dans les zones rurales est un point extrêmement important. Je voudrais rappeler juste un chiffre. Nous avons, à la rentrée 2018, 33 000 élèves de moins dans l'enseignement primaire, et nous créons 3600 postes supplémentaires. Il y a un effort extrêmement important de l'État sur l'enseignement primaire.
Je peux vous rappeler la promesse d'Emmanuel Macron, les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement, il n'y aura plus aucune fermeture de classe dans les écoles rurales, déclaration du 17 juillet. Est-ce que c'est tenable ? Question simple, est-ce que c'est tenable ?
Pour réaliser cet objectif, nous avons d'ores et déjà 47 conventions ruralité, je suis un peu technique, mais conventions ruralité, l'important c'est qu'il y ait le dialogue avec les collectivités territoriales.
Vous n'êtes pas en mesure ce matin de nous dire qu'il n'y aura pas de fermeture.
Nous avons un nombre de postes extrêmement important, une centaine de postes importants pour la mise en place de nouvelles conventions ruralité.
Dernière question, Jean-Marc Huard. Jean-Michel Blanquer à la vedette du gouvernement. Il est bien noté, on va dire, conservateur et réformateur. C'est facile de bosser avec lui ?
Je connais Jean-Michel Blanquer depuis très longtemps. C'est un vrai plaisir. Je crois que l'engagement qui est le sien pour, à l'école primaire, aller vers 100% de réussite pour tous les élèves, remettre en place une approche extrêmement forte des fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, et puis à l'autre bout, aller sur 100% de réussite dans l'enseignement supérieur grâce à la réforme du baccalauréat, c'est vraiment un projet extrêmement motivant.
Beaucoup se sont cassés les dents sur la réforme du baccalauréat. Beaucoup de gouvernements, ça remonte à des dizaines d'années. Pourquoi il réussira, lui ?
Là, je suis très optimiste. Il y a véritablement... Vous savez, la réforme du baccalauréat, c'est 5 ou 6 mois de consultation et de concertation. Le ministre a reçu les organisations syndicales, les organisations de parents, jusque avant-hier après-midi. Donc c'est vraiment un travail extrêmement collectif, extrêmement concerté.
Vous ne craignez pas des défilés de lycéens et une grogne des enseignants qui pourraient perturber, comme ça a été souvent le cas ? Non,
non, parce que chacun a compris que c'était tout à fait dans l'intérêt et pour la réussite des élèves.
Le service national, vous y travaillez ?
Nous y travaillons également avec nos collègues, bien sûr. Nous sommes tout à fait partie prenante parce qu'il y a inévitablement une dimension qui touche l'enseignement scolaire.
Est-ce que vous savez,
dans le service national.
Une dimension scolaire. Les locaux seront sollicités ?
Nous sommes, comme vous le savez, le président de la République a installé un groupe de travail autour de ces questions, donc nous sommes en train d'y travailler.
On y travaille. Merci à vous, Jean-Marc Huard, d'avoir été dans ce studio d'RTL ce matin.
Le bac reste le bac, il conserve son caractère national. Nous voulons tout simplement le renforcer, le moderniser. Le fameux grand oral sera axé sur les disciplines choisies par l'élève et sa famille, disciplines dites spécialisées. Et cet oral sera désormais initié et préparé dès la seconde, vient de nous dire le directeur général de l'enseignement scolaire. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.